9 commentaires. Les 9 commentaires sur le Parti communiste. 6e partie, comment le Parti communiste chinois a détruit la culture traditionnelle. Par l'équipe éditoriale des 9 commentaires sur le Parti communiste. 23 juillet 2005 11h26 mis à jour, 8 septembre 2024 17h19. Comment le Parti communiste chinois a détruit la culture traditionnelle. Préambule. La culture est l'âme d'une nation. C'est un facteur spirituel aussi important pour l'humanité que les facteurs tangibles comme la race et la terre. L'histoire de la civilisation d'une nation est en grande partie guidée par ses développements culturels. La destruction complète d'une culture traditionnelle ne peut qu'entraîner la fin d'une nation. D'anciennes nations aux civilisations glorieuses se sont éteintes lorsque leur culture a été détruite, même si des éléments de leur race ont survécu. La Chine est le seul pays au monde dont l'ancienne civilisation s'est transmise sans interruption pendant 5000 ans. La destruction de sa culture traditionnelle est un crime impardonnable. La culture traditionnelle de la Chine, qu'on croit être un héritage divin, a commencé avec des légendes comme celle de la création du paradis et de la terre par Pangu, celle de la création des humains par Nuva, celle de l'identification de centaines d'herbes médicinales par Shenom et celle de l'invention des idéogrammes chinois par Kangji. L'homme suit la terre suit le ciel suit le Tao et le Tao suit ce qui est naturel. Le taoïsme parle de l'unité du ciel et de l'humanité, c'est cette sagesse qui coule dans les veines de la culture chinoise. Un grand enseignement incite à cultiver la vertu. Il y a plus de 2000 ans, Confucius a ouvert une école pour enseigner aux étudiants et il a transmis à la société les idéaux confucéens représentés par les 5 vertus cardinales de bienveillance, droiture, bienséance, sagesse et fidélité. Au 1er siècle, le bouddhisme de Sakyamuni est arrivé dans l'est de la Chine avec ses promesses de compassion et de salut pour tous les êtres, la culture chinoise y a gagné en diversité et en profondeur. Puis, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme sont devenus des croyances complémentaires de la société chinoise, amenant la dynastie Tang, 618 à 907, au sommet de sa gloire et de sa prospérité, comme cela est connu de tous sous les cieux. Bien que la nation chinoise ait subi maintes fois dans l'histoire invasions et attaques, la culture chinoise a montré une grande endurance et une grande résistance et son essence s'est continuellement transmise. L'unité des cieux et de l'humanité est la cosmologie de nos ancêtres. Il est communément accepté que le bien sera récompensé et que le mal sera puni. C'est le principe élémentaire consistant à ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas que l'on nous fasse. Loyauté, piété filiale, dignité et justice ont établi les critères de base pour un être humain dans ce monde. Bienveillance, droiture, bienséance, sagesse et fidélité sont devenues une norme de moralité à la fois pour un individu et pour toute la société. Avec de tels principes, la culture chinoise incarnait l'honnêteté, la bonté, l'harmonie et la tolérance. Les monuments funéraires du peuple chinois expriment la révérence envers le ciel, la terre, le monarque, les parents et l'enseignant. C'est une expression culturelle des traditions chinoises profondément enracinées qui comprennent la vénération de la divinité, le ciel et la terre, la loyauté au pays, le monarque, les valeurs de la famille, les parents, et le respect pour les enseignants. La culture traditionnelle chinoise recherchait l'harmonie entre l'homme et l'univers et mettait l'accent sur l'éthique individuelle et la moralité. Elle se basait sur les croyances dans les pratiques du confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme et apportait au peuple chinois tolérance, progrès social, protection de la moralité humaine et croyances justes. À la différence de la loi, qui prescrit des règles rigides, la culture agit comme une contrainte douce. La loi exécute la sentence après qu'un crime ait été commis, et la culture, en entretenant la moralité, empêche d'abord les crimes de se commettre. Les valeurs morales d'une société s'inscrivent souvent dans sa culture. Dans l'histoire de la Chine, la culture traditionnelle a atteint son apogée durant la dynastie prospère des Tang, coïncidant avec la grande puissance de la nation chinoise. La science, tout aussi avancée, jouissait d'une réputation unique parmi toutes les nations. Des savants d'Europe, du Moyen-Orient et du Japon allaient étudier à Chang'an, la capitale de la dynastie Tang. Les pays limitrophes prenaient la Chine comme leur état suzerain. De nombreux pays venaient payer leur tribut à la Chine même s'ils devaient recourir à de multiples traductions et s'ouvrir un passage à travers les douanes successives. Après la dynastie Qin, 221 à 207 avenue JC, la Chine a souvent été occupée par des minorités, surtout pendant les dynasties Sui, 581 à 618, Tang, 618 à 907, Yuan, 1271 à 1361, et Qing, 1644 à 1911, et occasionnellement à d'autres époques lorsque les minorités ethniques ont établi leur propre régime. Cependant, ces groupes ethniques ont presque tous assimilé intégralement les coutumes chinoises, ce qui montre le pouvoir d'intégration de la culture chinoise traditionnelle. Comme le disait Confucius, ainsi, si les gens d'ailleurs ne sont pas accommodants, amenez-les à pratiquer notre culture, notre vertu. Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a consacré les ressources de la nation tout entière à la destruction de la riche culture traditionnelle chinoise. Cette mauvaise intention n'est pas venue de son zèle pour l'industrialisation, ni d'une simple fascination ridicule pour la civilisation occidentale. Cela est venu de l'opposition idéologique inhérente au PCC face à la culture chinoise traditionnelle. La destruction de la culture chinoise a été planifiée par le PCC, elle a été organisée, systématisée, et a été rendue possible par l'utilisation de la violence par l'État. Depuis sa fondation, le PCC n'a jamais cessé de « révolutionner » la culture chinoise dans l'intention de détruire complètement son esprit. Plus déplorable encore que la destruction de la culture traditionnelle par le PCC, sont l'exploitation intentionnelle et la modification sournoise par ce dernier de la culture traditionnelle. Le PCC a promu les mauvais aspects de l'histoire de la Chine, les choses qui se sont passées à chaque fois que les gens se sont éloignés des valeurs traditionnelles, telles les luttes de pouvoir internes de la famille royale, l'utilisation de tactiques et de conspirations, et l'exercice de la dictature et du despotisme. Il a utilisé ces exemples historiques pour qu'il l'aide à créer son propre ensemble de valeurs morales, ses façons de penser et son vocabulaire. En faisant ainsi, le PCC a donné la fausse impression que cette « culture du parti » est la continuité de la culture traditionnelle chinoise. Le PCC a même tiré profit de l'aversion qu'ont certaines personnes envers la « culture parti » pour inciter davantage à l'abandon de l'authentique tradition chinoise. La destruction de la culture traditionnelle par le PCC a eu des conséquences désastreuses en Chine. Non seulement les gens ont perdu leurs repères moraux, mais ils ont été endoctrinés de force par les théories perverses du PCC. Et pourquoi le PCC a-t-il voulu détruire la culture chinoise? 1. La longue tradition de la culture chinoise est basée sur la croyance et la vertu. La culture authentique de la nation chinoise a commencé il y a environ 5000 ans avec le légendaire empereur Huan, considéré comme le premier ancêtre du peuple chinois. En fait, l'empereur Huan est reconnu pour avoir fondé le taoïsme aussi connu sous le nom de l'école de pensée Huan Lao, Lao Tse. La profonde influence du taoïsme sur le confucianisme est perceptible dans les paroles confucéennes, rechercher le Tao, se conformer à la vertu, s'en tenir à la bienveillance, et s'immerger dans les arts, si quelqu'un entend le Tao le matin, il peut mourir sans regret le soir. Un des plus importants classiques chinois, le Livre des Mutations, I Ching, est une compilation de notes sur le ciel et la terre, le yin et le yang, les changements cosmiques, l'ascension sociale et le déclin, et les lois de la vie humaine. Le pouvoir prophétique de ce livre a surpassé de loin ce que la science moderne peut concevoir. En plus du taoïsme et du confucianisme, le bouddhisme, en particulier le bouddhisme zen, a eu une subtile mais profonde influence sur les intellectuels chinois. Le confucianisme est la partie de la culture traditionnelle chinoise qui se concentre sur l'entrée dans le monde humain. Il mettait l'accent sur une éthique basée sur la famille dans laquelle la piété filiale jouait un rôle très important, enseignant que toute bonté commence par la piété filiale. Confucius prônait bienveillance, droiture, bienséance, sagesse et fidélité, mais il a dit aussi, la piété filiale et l'amour fraternel ne sont-ils pas les racines de la bonté ? L'éthique familiale peut naturellement être appliquée pour guider la morale sociale. La piété filiale peut aussi être appliquée à la loyauté envers le monarque. On dit Chou, il est rare que quelqu'un ayant de la piété filiale offense ceux d'en haut. L'amour fraternel peut aussi s'appliquer à la loyauté envers les amis. Les Confucéens croient que dans une famille, un père devrait être bon, un fils dévoué, un frère aîné amical, et un frère cadet respectueux. Ici, la bonté paternelle peut aussi s'appliquer à la bonté d'un empereur envers ses subordonnés. Tant que les traditions d'une famille peuvent être maintenues, la moralité sociale peut naturellement perdurer. Se cultiver soi-même, réguler sa propre famille, gouverner justement son propre état et offrir tranquillité et bonheur à tout le royaume. Le bouddhisme et le taoïsme, par contre, sont la partie de la culture chinoise qui se concentre sur la sortie du monde séculaire, guidant les gens dans leur élévation spirituelle. L'influence du bouddhisme et du taoïsme se reflétait dans tous les aspects de la vie du peuple chinois. Les pratiques profondément enracinées dans le taoïsme incluent la médecine chinoise, le qigong, la géomancie, feng shui, et la divination. Ces pratiques, ainsi que les conceptions bouddhistes du royaume des cieux et de l'enfer, la récompense karmique du bien et la rétribution du mal, ont, en synergie avec l'éthique confucéenne, formé le noyau de la culture traditionnelle chinoise. Les croyances du confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme ont offert au peuple chinois un système moral très stable, immuable, aussi longtemps que le ciel demeure. Ce système éthique a donné la base d'une stabilité durable, de la paix et de l'harmonie dans la société. La moralité relève du monde spirituel, donc elle est souvent conceptuelle. La culture exprime un tel système abstrait de moralité en un langage qui peut être communément compris. Prenez les quatre classiques chinois, qui sont les quatre romans les plus connus de la culture chinoise, pour exemple. Le Pèlerinage d'Occident est un conte mythique. Le rêve dans le pavillon rouge commence avec un dialogue entre une roche vivante, la divinité de l'espace infini et le Tao du temps illimité, sur la falaise sans fond de la montagne de la Grande Perte. Ce dialogue donne les repères pour le drame humain qui se déroule dans le roman. Au bord de l'eau commence avec un conte sur Hong Taiwan-yi, responsable des affaires militaires, qui avait par mégarde libéré 108 démons. Cette légende explique l'origine des 108, militants des prouesses hors la loi. Les trois royaumes commencent avec un avertissement céleste à propos d'un désastre, laissant présager la conclusion inéluctable de la volonté divine. Les affaires du monde affluent en un flot continu, un destin déterminé par le ciel, dont la portée est infinie, met fin à tout. D'autres histoires célèbres, comme l'histoire des Zhou orientaux et l'histoire de Yufei, commencent avec des légendes similaires. L'utilisation des mythes par ces conteurs n'était pas une coïncidence, mais un reflet de la philosophie fondamentale des intellectuels chinois relevant de la nature et des humains, une contemplation de l'origine divine de la vie humaine. Ces contes ont eu une si profonde influence sur l'esprit chinois que leurs personnages ont été utilisés pour exprimer des caractéristiques de certaines valeurs morales. En parlant du concept de « droiture », par exemple, les gens pensent à Guan Yu, 160 à 219, des trois royaumes ils pensent à comment son sens de l'honnêteté a transcendé les nuages et atteint le ciel, comment sa loyauté inébranlable envers son supérieur Liu Bei lui a valu le respect, même auprès de ses ennemis, comment sa bravoure dans la bataille a prévalu dans les conditions les plus dangereuses, et même dans sa défaite finale dans une bataille près de la ville de Mei, est finalement devenu divinité, à l'entretien qu'il a avec son fils. En parlant de loyauté, les gens pensent naturellement à Yufei, 1103 à 1141, grand général de la dynastie Song qui servit son pays avec une intégrité et une loyauté sans réserve, et à Zhuge Liang, 181 à 234, premier ministre de l'état de Chu durant la période des Trois Royaumes, qui se donna entièrement jusqu'à ce que son cœur cesse de battre. Le panégyrique de la loyauté et de la droiture appartenant à la culture traditionnelle chinoise a été entièrement élaboré dans les histoires pittoresques de ses écrivains. Les valeurs morales abstraites qu'elle épouse ont été rendues spécifiques et se sont incarnées dans des expressions culturelles. Le taoïsme met l'accent sur l'authenticité, le bouddhisme met l'accent sur la compassion, et le confucianisme valorise la loyauté, la tolérance, la bienveillance et la droiture. Si leurs formes diffèrent, leurs objectifs sont les mêmes, tous encouragent les gens à retourner à la bonté. Ce sont les aspects les plus précieux de la culture traditionnelle chinoise basée sur les croyances dans le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. La culture traditionnelle chinoise a enseigné aux gens d'importants concepts et principes, tels que le ciel, le Tao, Dieu, Bouddha, le destin, l'affinité prédestinée, la bienveillance, la droiture, la bienséance, la sagesse, la fidélité, l'honnêteté, le sens de la honte, la loyauté, la piété filiale, la dignité, etc. Beaucoup de Chinois sont peut-être illettrés, mais les pièces de théâtre et les opéras traditionnels, à travers lesquels ils apprennent la moralité traditionnelle, leur sont familières. Ces formes culturelles ont été extrêmement importantes dans la transmission de la tradition chinoise. Alors, la destruction de la culture traditionnelle chinoise par le PCC est évidemment une attaque directe à la moralité chinoise et détruit la base de la paix et de l'harmonie dans la société. De la théorie communiste perverse s'oppose à la culture traditionnelle. La philosophie du Parti communiste est à l'opposé de la culture traditionnelle chinoise authentique. La culture traditionnelle respecte le mandat du ciel, tel que mentionné une fois par Confucius, la vie et la mort sont prédestinées, et la richesse et la position sont déterminées par le ciel. Le bouddhisme et le taoïsme croient au divin, au cycle de réincarnation de la vie et de la mort, et à la causalité karmique du bien et du mal. Le Parti communiste, au contraire, non seulement croit à l'athéisme, mais il défie le Tao et attaque les principes célestes. Le confucianisme valorise la famille, mais le manifeste du Parti communiste promulguait clairement l'abolition de la famille. La culture traditionnelle différencie le chinois de l'étranger, mais le manifeste du Parti communiste prône la fin de la nationalité. La culture confucéenne enseigne la bienveillance envers les autres, mais le Parti communiste encourage la lutte des classes. Les confucéens encouragent la loyauté envers les hommes nobles et l'amour de la nation, cependant, le manifeste du Parti communiste encourage l'élimination des nations. Pour obtenir et maintenir le pouvoir en Chine, le Parti communiste devait tout d'abord planter ses pensées immorales sur le sol chinois. Mao Tse-tung a déclaré, « Chaque fois quand on veut renverser un pouvoir, on doit tout d'abord faire de la propagande et travailler sur la question de l'idéologie. » Le PCC a réalisé que la violente théorie communiste, soutenue seulement par les armes, est la poubelle des conceptions occidentales et ne pouvait se mesurer aux 5000 ans de profonde histoire culturelle de la Chine. Alors il a complètement détruit la culture traditionnelle afin que le marxisme et le léninisme puissent occuper la scène politique en Chine. 3. La culture traditionnelle est un obstacle à la dictature du PCC. Mao Tse-tung a dit une fois, avec justesse, qu'il ne suivait ni le Tao ni le ciel. La culture traditionnelle chinoise présenta un énorme obstacle pour le vu du PCC de défier le Tao et de s'opposer au ciel. La loyauté dans la culture traditionnelle chinoise ne veut pas dire dévouement aveugle. Aux yeux du peuple, l'empereur est le fils du ciel, et le ciel est au-dessus de lui. L'empereur ne peut pas être correct à chaque fois. Alors, il fallait des observateurs qui indiquaient constamment ses erreurs à l'empereur. Le système chinois des chroniques avait des historiens qui notaient tous les mots et tous les gestes de l'empereur. Les érudits pouvaient devenir des professeurs pour leur roi sage, et le comportement de l'empereur était jugé par les classiques confucéens. Si l'empereur n'avait pas de moralité et ne comprenait pas le Tao, les gens pouvaient se lever et le renverser, tel que dans l'assaut de Jia Shangtang ou la destitution de Zhou par le roi Wu. Ces révoltes, à en juger selon la culture traditionnelle, n'étaient pas considérées comme des violations de la loyauté ou du Tao, mais plutôt comme appliquer le Tao au nom du ciel. Lorsque le célèbre commandant militaire Wen Xianxiang, 1236 à 1283, a été fait prisonnier, il a refusé de se rendre aux envahisseurs mongols, même lorsque l'empereur a essayé de l'en persuader. C'est parce que, en tant que confucéen, il croyait que, le peuple est d'une importance capitale, la nation vient après, le souverain est moins important. La dictature du PCC ne pouvait en aucun cas accepter ses croyances traditionnelles. Le PCC voulait canoniser ses propres chefs et promouvoir le culte de la personnalité, il n'allait pas laisser des concepts de longue date comme le ciel, le Tao et la divinité gouverner d'en haut. Le PCC savait bien que, évalué selon les critères de la culture traditionnelle, ce qu'il faisait était un crime contre le ciel et le Tao. Il était conscient qu'aussi longtemps que la culture traditionnelle existerait, les gens ne feraient pas l'éloge de la grandeur, la gloire et l'infaillibilité du PCC. Les érudits continueraient la tradition de risquer leur vie pour critiquer les mauvaises actions du monarque, maintenir la justice au prix de leur vie, et placer le peuple au-dessus des dirigeants. Donc, le peuple ne deviendrait pas la marionnette du PCC et le PCC ne pourrait pas imposer une uniformité de pensée auprès des masses. Le respect pour le ciel, la terre et la nature de la culture traditionnelle était devenu un obstacle pour la lutte contre la nature, menée par le PCC dans son effort de changer le ciel et la terre. La culture traditionnelle chérit la vie humaine, enseignant que toute situation impliquant la vie humaine doit être traitée avec le plus grand soin. Une telle perception était un obstacle au génocide de masse et au règne de terreur du PCC. L'ultime critère moral du « Tao céleste », prôné par la culture traditionnelle, interférait avec sa manipulation des principes moraux. Pour ces raisons, le PCC s'est fait ennemi de la culture traditionnelle pour maintenir son propre contrôle. 4. La culture traditionnelle défie la légitimité du règne du PCC. La culture traditionnelle chinoise croit en Dieu et au mandat céleste. Accepter le mandat du ciel signifie que les dirigeants doivent être sages, suivre le Tao et s'harmoniser avec la destinée. Accepter la croyance en la divinité signifie accepter que la source de l'autorité humaine demeure au ciel. Cependant, le principe du règne du PCC se résume à « Plus jamais les chaînes de la tradition ne nous enchaîneront, soulevez-vous travailleurs, libérez-vous de la servitude. La terre se lèvera sur de nouvelles fondations, nous ne sommes rien, nous serons tout. » Le PCC favorise le matérialisme historique, en prétendant que le communisme est un paradis terrestre, et que ce sont les pionniers du prolétariat ou les membres du Parti communiste qui nous mènent sur ce chemin. La croyance en Dieu était donc un défi direct à la légitimité de son règne. 2. Comment le Parti communiste chinois sabote la culture traditionnelle. Tout ce que fait le PCC a une visée politique. Afin d'établir la tyrannie, de la maintenir et de la consolider, le PCC doit remplacer la nature humaine par la nature perverse du parti et doit remplacer la culture traditionnelle chinoise par la culture du parti, faite de tromperie, de cruauté et de violence. Ce qui est détruit et remplacé, ce sont les vestiges culturels, les sites historiques et les livres anciens qui sont des preuves tangibles de la vision traditionnelle de la moralité, de la vie et du monde. Tous les aspects de la vie sont concernés, y compris le comportement des gens, leurs pensées et leur mode de vie. Parallèlement à cela, le PCC considère les manifestations culturelles superficielles et insignifiantes comme l'essence, il les préserve et utilise cette essence comme façade. Il conserve un semblant de tradition en remplaçant la véritable tradition par la culture du parti. Ensuite, il trompe les gens et la communauté internationale derrière cette vitrine qu'il appelle « transmettre et développer » la culture traditionnelle chinoise. Une destruction simultanée des trois religions. La culture traditionnelle est enracinée dans le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. Pour détruire cette culture, le PCC a donc dans un premier temps détruit la manifestation de ses principes divins dans le monde humain, c'est-à-dire qu'il a éradiqué les trois religions correspondantes. Les trois religions majeures, le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, ont été menacées de destruction à différentes périodes de l'histoire. Prenons par exemple le bouddhisme, il a été soumis dans l'histoire à quatre grandes épreuves, que l'on appelle les trois Wuzhenzong, la persécution des croyants bouddhistes par quatre empereurs chinois. L'empereur Taizong de la dynastie Wei du Nord, 386-534 avenue JC, et l'empereur Huizong de la dynastie Tang, 618 à 907 avenue JC, ont tous deux essayé d'éradiquer le bouddhisme pour faire valoir le taoïsme. L'empereur Wu de la dynastie Zhou du Nord, 557 à 581 avenue JC, a essayé d'exterminer le bouddhisme et le taoïsme à la fois, mais a vénéré le confucianisme. L'empereur Shizong de la fin de la dynastie Zhou, 951 à 960, a essayé de supprimer le bouddhisme juste pour fondre de la monnaie en utilisant ses statues, mais il n'a touché ni au taoïsme ni au confucianisme. Le PCC est le seul régime à avoir détruit simultanément les trois religions. Peu de temps après avoir établi un gouvernement, le PCC a commencé à abattre les temples, à brûler les écritures et à forcer les moines et les nonnes bouddhistes à retourner à la vie séculière. Il n'a pas été plus clément avec les autres lieux religieux. À la fin des années 1960, il ne restait presque plus de lieux religieux en Chine. La grande révolution culturelle dans sa campagne abat les quatre vieilleries, y les anciennes idées, l'ancienne culture, les anciennes coutumes et les anciennes habitudes culturelles, a causé d'encore plus grandes catastrophes religieuses et culturelles. Par exemple, le premier temple bouddhiste en Chine s'appelait le temple du cheval blanc, Bema Temple. Il avait été construit au début de la dynastie Dian à l'extérieur de la ville de Luoyang. On le vénère comme le « berceau du bouddhisme en Chine » et comme « la maison du fondateur ». Durant la période, à bas les quatre vieilleries, le temple du cheval blanc n'a évidemment pas échappé au pillage. Il y avait une brigade de production du temple du cheval blanc à côté du temple. Le secrétaire de la section du parti a entraîné les paysans à piller le temple au nom de la « Révolution ». C'est alors qu'ont été détruites les statues d'argile vieille de plus de 1000 ans, fabriquées sous la dynastie Liao et représentant les 18 Aras. Les écrits sacrés de Beiqi avaient été apportés en Chine par un moine indien éminent 2000 ans auparavant, ont été brûlés. Le cheval de jade, un trésor rare, a été réduit en miettes. Plusieurs années après, le roi cambodgien en exil Norodom Sihanouk a demandé à pouvoir rendre hommage au temple du cheval blanc. Huanglé, alors premier ministre, s'est empressé de demander que l'on transporte à Luoyang les sutras, écrits, de Bei conservés au palais impérial de Pékin et les statues des 18 Aras fabriquées sous la dynastie Qin depuis le temple des nuages azurés, temple de Biyan, situé dans le parc Hongyangshan à Pékin. C'est grâce à ce remplacement malhonnête qu'un incident diplomatique a été évité. La révolution culturelle a commencé en mai 1966. En fait, elle révolutionnait la culture chinoise de manière destructrice. La campagne, à bas les quatre vieilleries, a fait rage à partir d'août 1966, ravageant la Chine tout entière. Considérés comme des objets du féodalisme, du capitalisme et du révisionnisme, les temples bouddhistes, taoïstes, les statues de Bouddha, les sites historiques, les calligraphies, les peintures et les antiquités sont devenus la principale cible de la destruction des gardes rouges. Prenons par exemple les statues de Bouddha. On compte 1000 statues de Bouddha aux couleurs vernies en relief au sommet de la colline de la longévité du palais d'été de Pékin. Après la campagne, à bas les quatre vieilleries, toutes ont été endommagées. Aucune d'entre elles ne conserve ses cinq organes sensoriels au complet. Il en a été ainsi pour la capitale comme pour le reste du pays. Même les sièges des cantons éloignés n'ont pas été épargnés. Il y a un temple Xianté dans le canton de Dai de la province de Shaanxi. Il a été construit durant la période Taiyang de la dynastie Wei du Nord il y a 1600 ans et contenait des statues et des fresques d'une grande valeur. Bien qu'étant situé sur la pente d'une colline assez éloignée du siège du canton, les gens participant à la campagne, à bas les quatre vieilleries, ne se sont pas laissés arrêter par les difficultés et ont balayé ces statues et ces fresques. Le temple de Lugan où Lao Tse avait enseigné et laissé le célèbre Tao Te Ching il y a 2500 ans, est situé dans le canton de Zhuzi de la province de Shaanxi. Autour de l'endroit où Lao Tse enseignait, dans un périmètre de 10 li, on trouve plus de 50 sites historiques, y compris le temple vénérant le sage, Longsheng Gong, que Tang Gaozu Li Yuan a construit pour rendre hommage à Lao Tse il y a 1300 ans. Le temple Lugan ainsi que les autres sites historiques ont été détruits, et tous les prêtres taoïstes ont dû partir. Selon la tradition taoïste, une fois que l'on devient prêtre taoïste, on ne peut plus se raser la barbe ni se faire couper les cheveux. On a forcé les prêtres taoïstes à se couper les cheveux, à enlever leur habit taoïste, et à devenir membres des communes du peuple. Certains d'entre eux ont épousé les sœurs des paysans du coin et sont devenus leurs gendres. Sur les lieux taoïstes sacrés de la montagne de Laoshan dans la province de Shandong, le temple de la paix suprême, le temple de la plus haute clarté, le temple de la clarté suprême, le temple d'Umu, le couvent de Huayan, le temple de Ningxiaen, le temple de Guanyu, les statues des vaisseaux sacrificiels et divins, les sutras bouddhistes en parchemin, les vestiges culturels et les tablettes des temples ont tous été pillés et brûlés. Le temple de la littérature dans la province de Jilin est l'un des quatre célèbres temples de Confucius en Chine. Durant la campagne, à bas les quatre vieilleries, il a été gravement endommagé. Deux, une manière particulière de détruire la religion. Lénine disait, la manière la plus facile d'assiéger une forteresse c'est de la prendre de l'intérieur. En tant que descendant du marxisme-léninisme, le PCC comprend cela aisément. Dans le sutra, Mahayana Mahaparinirvana, le Bouddha Sakyamuni avait prédit qu'après son nirvana, des démons se réincarneraient en moines et en nonnes, et en bouddhistes laïcs, hommes et femmes, pour subvertir le dharma. Évidemment, on ne peut pas vérifier ce à quoi le Bouddha Sakyamuni faisait référence. Cependant, le PCC a bel et bien commencé à détruire le bouddhisme en formant un front unifié avec certains bouddhistes. Ils ont même envoyé secrètement des membres du parti pour infiltrer la religion directement et la corrompre de l'intérieur. Lors d'une séance de critique publique durant la révolution culturelle, quelqu'un a demandé à Zhao Puxu, le vice-président de l'association des bouddhistes chinois, « Tu es un membre du parti communiste, pourquoi crois-tu au bouddhisme ?» Le Bouddha Sakyamuni a atteint l'éveil complet et suprême à travers, précepte, concentration, sagesse. Donc avant d'atteindre le nirvana, il a enseigné à ses disciples à préserver et à respecter les préceptes. Ne les abandonnez pas, ne les violez pas. Il a aussi mis en garde, les gens qui violent les préceptes sont abhorrés par les cieux, les dragons, les fantômes et la divinité. Leur réputation maléfique s'étend de tous côtés. Quand leur vie s'achève, ils paient dans l'enfer le karma qu'ils ont accumulé, et leur fin est inexorable. Quand ils sortent, ils continuent à souffrir en se réincarnant en fantôme ou en animal affamé. Ils souffrent ainsi dans un cycle infini et sans consolation. Les moines bouddhistes politiques n'ont pas voulu entendre les mises en garde du Bouddha. En 1952, le PCC a envoyé des représentants pour assister à l'inauguration de l'Association des bouddhistes chinois. Lors de la réunion, de nombreux bouddhistes de l'association ont proposé d'abolir les préceptes bouddhistes. Ils prétendaient que ces disciplines avaient causé la mort de nombreux jeunes hommes et femmes. Certains préconisaient que les gens devraient être libres de croire en n'importe quelle religion. Les moines et les nonnes devraient être libres de se marier, de boire de l'alcool, de manger de la viande. Personne ne devrait interférer avec cela. À l'époque, Maître Xuyun était à la réunion et a vu que le bouddhisme était menacé d'extinction en Chine. Il s'est mis en avant pour s'opposer à ces propositions, il a demandé que les préceptes et les vêtements bouddhistes soient conservés. Maître Xuyun a alors été diffamé et accusé d'être un contre-révolutionnaire, il a été détenu dans la chambre du moine supérieur où on l'a empêché de boire et de manger. Il n'a même pas eu le droit de sortir de la pièce pour aller aux toilettes. On l'a forcé à rendre son or, son argent et ses armes. Lorsque Xuyun a répondu qu'il n'en avait pas, il a été battu violemment. Il a eu une fracture du crâne, sa tête a saigné et ses côtes ont été cassées. À l'époque, Xuyun avait déjà 112 ans. La police militaire l'a jeté à terre alors qu'il était sur un lit. Quand ils sont revenus le lendemain, Xuyun n'était pas mort, alors ils ont continué à le frapper brutalement. L'Association des bouddhistes chinois fondée en 1952 et l'Association taoïste chinoise fondée en 1957 ont toutes deux clairement stipulé dans leur déclaration fondatrice qu'elles étaient « sous l'égide du gouvernement du peuple ». En réalité, elles étaient sous le contrôle du parti qui est athée. Ces deux associations ont indiqué qu'elles participeraient activement à la production, à la construction et à l'application des politiques gouvernementales. Elles sont devenues des organisations totalement séculières. Et ces bouddhistes et ces taoïstes qui étaient dévoués aux préceptes ont été qualifiés de contre-révolutionnaires, de membres de sectes superstitieuses ou de sociétés secrètes. Sous le slogan révolutionnaire, purifier les bouddhistes et les taoïstes, ils ont été emprisonnés, soumis aux travaux forcés, voire exécutés. Les religions venues d'Occident, telles que le christianisme et le catholicisme, n'ont pas été épargnées. D'après des statistiques extraites du livre « Comment le Parti communiste chinois persécute les chrétiens » publié en 1958, même le nombre limité de documents qui ont été rendus publics révèle que parmi les membres du clergé qui ont été accusés d'être des « propriétaires » ou des « tyrans locaux, 8840 ont été tués et 39200 ont été condamnés au camp de travaux forcés, parmi les membres du clergé accusés d'être contre-révolutionnaires, 2450 ont été tués et 24800 ont été envoyés dans des camps de travaux forcés. Les religions sont pour les gens un moyen de se retirer du monde séculier et de se cultiver. Ils parlent de l'autre rive, la rive de l'éveil ultime et du ciel. Sakyamuni était un prince indien. Pour atteindre le muksi, un état dans lequel on peut atteindre la paix de l'esprit, la sagesse, l'éveil ultime et le nirvana, il a quitté son trône et s'en est allé sur une montagne boisée pour cultiver en traversant des épreuves et des peines. Avant que Jésus n'atteigne l'éveil, le démon l'a amené au sommet d'une montagne, lui a montré tous les royaumes de la terre et leur splendeur. Le démon a dit, « Si tu t'inclines et me vénères, je te donnerai toutes ces choses. » Jésus ne s'est pas laissé tenter. Pourtant les moines et les pasteurs politiques qui ont formé des fronts unis avec le PCC ont mis en place une série de coups montés et ils ont menti en parlant de « bouddhisme du monde humain », en disant « la religion est la vérité, et le socialisme aussi, et « il n'y a pas de contradiction entre ce côté-ci et l'autre rive ». Ils ont encouragé les bouddhistes et les taoïstes à rechercher le bonheur, la gloire, la splendeur, la richesse et le prestige social, et à changer les doctrines religieuses et leur sens. Le bouddhisme interdit de tuer. Le PCC a tué les gens comme des mouches durant la répression des contre-révolutionnaires. Les moines politiques ont trouvé une excuse en disant que tuer les contre-révolutionnaires était la preuve d'une compassion encore plus grande. Durant la guerre contre les États-Unis en Corée, les moines ont été envoyés directement en première ligne pour tuer. Prenons le christianisme comme autre exemple. En 1950, Wu Yaozhong a formé une église appelée « Trois Autonomies » qui suivait les principes de l'autogestion, de l'autonomie des ressources et de l'autopropagation. Il prétendait qu'il allait en finir avec l'impérialisme et qu'il allait se joindre activement à la guerre contre les États-Unis en Corée. Un de ses amis a été emprisonné pendant plus de 20 ans pour avoir refusé de se soumettre aux « Trois Autonomies ». Cet ami a été soumis à toutes sortes de tortures et d'humiliations. Quand il a demandé à Wu Yaozhong, « Comment considères-tu les miracles de Jésus ?» Wu a répondu, « Je les nie tout. » Ne pas reconnaître les miracles de Jésus revient à ne pas reconnaître le royaume des cieux de Jésus. Comment peut-on être considéré comme chrétien quand on ne reconnaît même pas le ciel où Jésus est monté ? Et pourtant, en tant que fondateur de l'église des « Trois Autonomies », Wu Yaozhong est devenu membre du comité permanent de la conférence consultative politique. Quand il est allé dans le grand hall du peuple, il a dû complètement oublier les paroles de Jésus, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, la Sainte Bible, Matthieu, 22, 37-38. « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, la Sainte Bible, Matthieu, 22h21. » Le PCC a confisqué les biens des temples, a forcé les moines et les nonnes à étudier le marxisme-léninisme pour leur laver le cerveau, et les a même soumis aux travaux forcés. Par exemple, il y avait un atelier bouddhiste à Ningbo, dans la province de Zhaojiang. Plus de 25 000 moines et nonnes y ont été soumis aux travaux forcés. Le plus absurde est que le PCC a encouragé les moines et les nonnes à se marier afin de détruire le bouddhisme. Autre exemple, juste avant la journée de la femme le 8 mars 1951, la Fédération des femmes à Changsha, dans la province de Hunan a ordonné aux nonnes de la province de se décider à se marier en quelques jours. De plus, on a obligé les jeunes moines vigoureux à rejoindre l'armée et on les a envoyés sur les champs de bataille pour servir de chair à canon. Divers groupes religieux en Chine se sont désintégrés sous la répression brutale du PCC. Les élites authentiques du bouddhisme et du taoïsme ont été réprimées. Parmi ceux qui restaient, beaucoup sont retournés à la vie séculière, et beaucoup d'autres étaient en fait des membres du parti communiste qui s'était spécialisé dans le port de la soutane, la robe taoïste ou celle du pasteur pour déformer les écrits bouddhistes, le canon taoïste et la Bible et chercher dans ces doctrines des justifications aux campagnes politiques du PCC. 3. Destruction des vestiges culturels. Détruire des vestiges culturels est une part importante de l'œuvre de destruction de la culture traditionnelle par le PCC. Lors de la campagne, à bas les quatre vieilleries, beaucoup de livres, de calligraphies et de peintures originales et uniques collectées par des intellectuels ont péri dans les flammes ou ont été réduits en pâte à papier. Zhang Bojin avait une collection de famille de 10 000 livres. Les chefs des gardes rouges les ont utilisés pour se chauffer. Ce qui restait a été envoyé dans des moulins à papier pour en faire de la pâte à papier. Le grand spécialiste de la calligraphie et de la peinture, Hong Kuo-sheng, est connu comme le « docteur miracle » des anciennes calligraphies et peintures. Il a rassemblé d'innombrables chefs-d'œuvre, tels que la peinture d'un paysage de l'empereur Song Huizong, la peinture d'un bambou de Sudongpo, et les peintures de Wen Zhaongming et Tang Bohu. Durant plusieurs décennies, la plupart des centaines de calligraphies et de peintures anciennes qu'il avait sauvées étaient devenues une collection nationale de premier ordre. Les calligraphies et les peintures qu'il avait collectionnées à grand-peine ont été étiquetées comme faisant partie des « quatre vieilleries » et ont été brûlées. Après quoi, M. Hong a dit en pleurs, « Plus de 100 jeans, 50 kilos, de calligraphies et de peintures, elles ont mis du temps à brûler. Les choses de ce monde vont et viennent. Anciennes, modernes, elles vont et viennent. Rivières et montagnes ont une gloire immuable. On peut toujours les voir de ce sentier. Si les Chinois d'aujourd'hui se souvenaient encore de certaines parties de leur histoire, ils ne ressentiraient probablement plus la même chose en lisant ce poème de Meng Haoran. Les sites historiques de la montagne et de la fameuse rivière ont été détruits, ils ont disparu dans la tourmente de la campagne, à bas les quatre vieilleries. Non seulement on a détruit le pavillon de l'orchidée, où Wang Xizi a écrit le célèbre poème prologue au recueil de poèmes composés au pavillon de l'orchidée, mais la tombe même de Wang Xizi a été profanée. L'ancienne habitation de Wu Shenan dans la province de Jingsu a été détruite, l'ancienne résidence de Wu Jixi dans la province d'Anhui a aussi été rasée, la tablette de pierre où on pouvait lire « Le pavillon du vieil homme ivre » écrit par Su Dongpo a été renversée par les « jeunes révolutionnaires » et les caractères gravés dans la pierre ont été rayés. L'essence de la culture chinoise a été transmise et s'est accumulée pendant des milliers d'années. Une fois détruite, on ne peut pas la ressusciter. Pourtant le PCC a pris plaisir à l'anéantir au nom de la « Révolution ». Quand nous nous lamentons devant le vieux palais d'été, connu sous le nom de « Palais des Palais », qui a été brûlé par les forces alliées de Grande-Bretagne et de France, quand nous regrettons que le travail monumental de l'encyclopédie Yongle ait été détruit par un envahisseur, comment aurions-nous pu anticiper que les destructions causées par le PCC seraient beaucoup plus étendues, beaucoup plus durables et profondes que celles de n'importe quel envahisseur ? 4. La destruction des croyances spirituelles. Le PCC ne s'est pas contenté de détruire les formes de la religion et de la culture, il a aussi employé toutes ses capacités pour supprimer l'identité spirituelle des gens, formés par la foi et la culture. Prenons par exemple la manière dont le PCC a traité les croyances des groupes ethniques. Le PCC considérait les traditions du groupe des musulmans Hui comme faisant partie des quatre vieilleries, vieilles pensées, culture, tradition, coutume. Il a donc forcé le groupe des Hui à manger du porc. Les fermiers musulmans et les mosquées devaient élever des porcs et chaque foyer devait donner deux porcs par an à la nation. Lors d'un incident extrêmement cruel, les gardes rouges ont forcé le deuxième Bouddha tibétain vivant de la hiérarchie, le Panchen Lama, à manger des excréments humains, et trois moines du temple bouddhiste de Harbin, dans la province de Heilongjiang ont été obligés de tenir un panneau où on lisait « Au diable les sutras ce n'est qu'un tas de merde ». En 1971, Lin Biao, le vice-président du comité central du PCC, s'est échappé de Chine mais a été tué lorsque son avion s'est écrasé à Indurkan, en Mongolie. Par la suite, dans la résidence Mao Jiaoyuan de Lin à Pékin, on a retrouvé des citations de Confucius. Le PCC a alors lancé un mouvement frénétique pour critiquer Lin Biao et Confucius. Un écrivain dont le pseudonyme est Lieng Xiao a publié un article dans le Drapeau Rouge, le magazine phare du PCC, intitulé « Qui est Confucius ?». L'article décrivait Confucius comme un fou qui voulait retourner en arrière, un démagogue vicieux et fourbe. Puis ont suivi une série de bandes dessinées et de chants diffamant Confucius. C'est ainsi que l'on a anéanti la dignité et le caractère sacré de la religion et de la culture. 5. Une destruction sans limite. Dans l'ancienne Chine, l'autorité du gouvernement central s'étendait jusqu'au niveau du canton, au-dessous duquel les clans patriarcaux maintenaient un contrôle autonome. Ainsi, dans l'histoire chinoise, les phénomènes de destruction tels que l'autodafé des livres et l'enterrement des érudits confucéens, par l'empereur Qin Shi Huang dans la dynastie Qin, 221 à 207, et les quatre campagnes pour éliminer le bouddhisme entre les 5 et 10e siècles par les trois Zhuo et un Zhong, ont tous été imposés du haut vers le bas, et n'ont pas pu éradiquer la culture. Les classiques et les idées bouddhistes et confucéens ont continué à survivre dans de vastes sphères de la société. En contraste, la campagne, à bas les quatre vieilleries, menée par de jeunes étudiants sous l'incitation du PCC, a été un mouvement national et populaire à l'enthousiasme spontané. L'extension du PCC à chaque village à travers des sections du parti au niveau des villages, a contrôlé la société si étroitement que rien n'a empêché le mouvement révolutionnaire de s'étendre et d'affecter chaque personne, sur chaque once de terre en Chine. Jamais dans l'histoire un empereur n'avait tenté d'éradiquer de l'esprit des gens ce qu'il considérait comme le plus beau et le plus sacré, en utilisant la violence et une propagande insultante, comme l'a fait le PCC. L'élimination de la croyance peut faire souvent plus de dégâts et durer plus longtemps que la seule destruction physique. 6. Réformer les intellectuels. Les caractères chinois incarnent l'essence de 5000 ans de civilisation. La forme et la prononciation de chaque caractère, les expressions et les allusions littéraires nées de leur combinaison, expriment toutes de profondes significations culturelles. Le PCC n'a pas seulement simplifié les caractères chinois, il a aussi essayé de les remplacer par un pinyin alphabétisé, qui aurait vidé les caractères chinois et le langage de toute tradition culturelle. Mais son plan de remplacement a échoué, épargnant davantage de dommages à la langue chinoise. Mais les intellectuels chinois qui partageaient le même héritage n'ont pas eu la chance d'échapper à la destruction. Avant 1949, la Chine comptait environ 2 millions d'intellectuels. Bien que certains aient étudié en Occident, ils n'en avaient pas moins hérité de certaines idées confucéennes. Le PCC ne pouvait pas relâcher son contrôle sur les intellectuels, parce qu'en tant que membres de la classe traditionnelle de l'aristocratie érudite, leur manière de penser jouait un rôle important pour modeler l'esprit des gens. En septembre 1951, le PCC initiait le mouvement de réforme de la pensée, à grande échelle commençant parmi les intellectuels de l'université de Pékin, et demandait d'organiser un mouvement parmi les enseignants des universités, des lycées et des écoles primaires, et les étudiants d'université, pour confesser leur histoire fidèlement et honnêtement, afin de nettoyer des esprits tout élément contre-révolutionnaire. Mao Tse-tung n'a jamais aimé les intellectuels. Un jour il a dit, « Ils, les intellectuels, doivent prendre conscience d'une vérité, c'est que beaucoup de soi-disant intellectuels sont, relativement parlant, tout à fait ignorants et les travailleurs, les paysans en savent parfois plus qu'eux. Comparés aux travailleurs et aux paysans, les intellectuels non réformés n'étaient pas propres, et finalement, les travailleurs et les paysans étaient les plus propres, même si leurs mains étaient sales et leurs pieds couverts de bouse de vache. » La persécution des intellectuels par le PCC a commencé par diverses formes d'accusations, allant de la critique de Wu Sun en 1951 pour avoir dirigé les écoles avec de l'argent mendié, jusqu'aux attaques personnelles de Mao Tse-tung en 1955, à l'encontre de l'écrivain Xu Feng accusé d'être un contre-révolutionnaire. Au début, les intellectuels n'ont pas été qualifiés de réactionnaires, mais dès 1957, après que plusieurs grands groupes religieux se soient rendus au travers du mouvement du « Front unifié », le PCC a pu concentrer son énergie sur les intellectuels. Le mouvement des « anti-droitiers » a alors été lancé. Fin février 1957, prétendant « laisser fleurir sans fleurs et concourir sans école de pensée », le PCC a appelé les intellectuels à faire part de leurs suggestions et de leurs critiques au parti, promettant de ne pas se venger. Les intellectuels, depuis longtemps mécontents du PCC pour sa manière de gouverner chaque domaine, alors même qu'ils n'y connaissaient rien, et pour ses massacres de gens innocents lors du mouvement, réprimer les contre-révolutionnaires, entre 1950 et 1953, et éliminer les contre-révolutionnaires, de 1955 à 1957, ont pensé que le PCC était finalement devenu ouvert et tolérant. Alors ils ont commencé à exprimer leurs véritables sentiments et leurs critiques se sont faites de plus en plus intenses. Bien des années plus tard, beaucoup de gens croient encore que Mao Tse-tung n'a commencé à attaquer les intellectuels que lorsqu'il s'est impatienté de leurs critiques de plus en plus sévères. Mais en fait, la vérité est tout autre. Le 15 mai 1957, Mao Tse-tung a écrit un article intitulé « Les choses commencent à changer » et l'a fait circuler parmi les anciens membres du parti. L'article disait « Récemment, les droitiers se sont montrés eux-mêmes plus déterminés et plus farouches, les droitiers, qui sont anti-communistes, essaient désespérément de réveiller un typhon de force 7 en Chine, et veulent absolument détruire le parti communiste. » Après quoi, ces fonctionnaires qui étaient restés indifférents à la campagne, laissés fleurir sans fleurs et concourir sans école de pensée, sont devenus soudain enthousiastes et graves. La fille de Zhang Bojin en a rendu compte dans ses mémoires « Le passé ne disparaît pas comme de la fumée ». Li Wei-an, ministre du département du travail du Front unifié, a appelé Zhang Bojin en personne pour l'inviter à une rencontre de rectification pour donner son opinion à propos du PCC. On a fait asseoir Zhang dans un fauteuil au premier rang. Ne sachant pas que c'était un piège, Zhang a exprimé ses critiques. Tout au long de la rencontre, Li Wei-an semblait détendu. Zhang a probablement pensé que Li était d'accord avec ce qu'il disait. Il ne savait pas que Li était content de voir sa proie tomber dans le piège. Après la réunion, Zhang a été qualifié de droitier numéro 1 en Chine. On peut citer une série de dates en 1957 qui ont marqué des propositions ou des discours faits par des intellectuels offrant critiques et suggestions, le 21 mai, l'Institut du design politique, de Zhang Bojin, le 22 mai, point de vue anti-soviet absurde, de Long Yin, le 22 mai encore, le comité de redressement, de Luo Longji, le 31 mai, le parti devrait cesser de diriger les arts, par Wu Zugang, et le 1er juin, le parti domine le monde, par Xu Jinping. Toutes ces propositions et tous ces discours avaient été sollicités et présentés après que Mao Tse-Tung ait déjà aiguisé son couteau de boucher. Comme il était prévisible, tous ces intellectuels ont par la suite été qualifiés de droitiers. Il y avait plus de 550 000 tels droitiers dans tout le pays. La tradition chinoise veut que les érudits puissent être tués mais pas humiliés. Le PCC a réussi à infliger l'humiliation suprême aux intellectuels en leur refusant le droit de survivre à moins d'accepter l'humiliation. Même leurs familles ont été affectées. De nombreux intellectuels se sont rendus et certains en ont dénoncé d'autres pour se préserver eux-mêmes. Ceux qui ne se sont pas soumis à l'humiliation ont été tués, ils ont servi d'exemple pour terroriser les autres intellectuels. La traditionnelle classe des érudits, des modèles de vertu sociale, a ainsi été décimée. Mao Tse-Tung a dit, de quoi l'empereur Qin Shi Huang peut-il bien se vanter? Il n'a tué que 460 érudits confucéens, nous avons tué 46 000 intellectuels. En réprimant les contre-révolutionnaires, est-ce que nous n'avons pas aussi tué des intellectuels contre-révolutionnaires? Je me suis défendu devant les pro-démocrates qui nous accusaient d'agir comme l'empereur Qin Shi Huang. Je leur ai dit qu'il avait tort. Nous l'avons surpassé 100 fois. En effet, Mao a fait plus que tuer les intellectuels. Il a détruit leur esprit et leur cœur. C'est créer l'apparence d'une culture en gardant un semblant de tradition tout en remplaçant son contenu. Après que le PCC ait adopté la réforme économique et une politique d'ouverture, il a rénové de nombreuses églises ainsi que des temples bouddhistes et taoïstes. Il a aussi organisé de nombreuses fêtes de temples en Chine ainsi que des fêtes culturelles à l'étranger. Ceci a été le dernier effort du PCC pour utiliser et détruire ce qui restait de culture traditionnelle. Le PCC avait deux raisons d'agir ainsi. D'un côté, la bonté inhérente dans la nature humaine que le PCC n'avait pas pu éradiquer conduirait à la destruction de la culture du parti. De l'autre, le PCC avait l'intention d'utiliser la culture traditionnelle pour maquiller son vrai visage et cacher sa nature perverse de tromperie, de cruauté et de violence. C'est dans sa profonde connotation morale que réside l'essence de la culture, alors que les formes superficielles ne servent qu'à divertir. Le PCC a restauré les éléments superficiels de la culture, qui divertissent, pour cacher son dessein de détruire la moralité. Peu importe combien le parti a organisé d'expositions d'art et de calligraphie, combien il a mis en scène des festivals culturels avec des dragons et des danses du lion, combien il a offert de festivals de la cuisine, ou combien d'œuvres d'architecture classique il a construites, le parti ne fait que restaurer l'apparence superficielle, et non l'essence de la culture. Pendant ce temps, le parti a promu ses articles culturels à l'intérieur comme à l'extérieur de la Chine dans le but unique de maintenir son pouvoir politique. Une fois de plus, on peut prendre l'exemple des temples. Les temples sont des endroits où les gens se cultivent spirituellement. À l'intérieur d'un temple, on peut entendre des cloches le matin et des tambours au coucher du soleil, on peut vénérer Bouddha sous les lampes à huile. Les gens du peuple peuvent aussi s'y confesser et entendre des offices. Pour se cultiver, il faut un cœur pur et sans recherche. Pour se confesser et vénérer, il faut aussi un environnement sérieux et solennel. Pourtant, ces temples ont été transformés en repères touristiques pour y faire de l'argent. Parmi les gens qui visitent les temples en Chine aujourd'hui, combien d'entre eux sont venus contempler leurs erreurs avec un cœur sincère et respectueux envers Bouddha après avoir pris un bain et changé leurs vêtements? Restaurer l'apparence tout en détruisant le sens profond de la culture traditionnelle est la tactique adoptée par le PCC pour semer la confusion dans l'esprit des gens. Que ce soit le bouddhisme, les autres religions, ou les formes culturelles qui en sont dérivées, le PCC les dégrade délibérément de cette manière. 3. La culture du parti. En même temps que le PCC détruisait la culture semi-divine traditionnelle, il a tranquillement établi sa propre culture du parti à travers une succession de mouvements politiques. La culture du parti a transformé la génération la plus ancienne, empoisonné la plus jeune et a aussi eu un impact sur les enfants. Son influence a été générale et extrêmement profonde. Même au cours des nombreuses tentatives pour exposer le fléau du PCC, personne n'a pu s'empêcher d'adopter les jugements sur le bien et le mal, les analyses et le vocabulaire développé par le PCC qui porte inévitablement l'empreinte de la culture du parti. La culture du parti a non seulement hérité de la perversion inhérente à la culture marxiste-léniniste née à l'étranger, mais a aussi habilement combiné tous les éléments négatifs de milliers d'années de culture chinoise avec la révolution violente et la philosophie de lutte prônée par la propagande du parti. Ces éléments négatifs comprennent la lutte interne pour le pouvoir au sein de la famille royale, la formation de clans pour poursuivre des intérêts égoïstes, l'usage de la tromperie politique pour faire souffrir les autres, les tactiques malhonnêtes et la conspiration. Lors de la lutte du PCC pour sa survie au cours des décennies passées, ses caractéristiques de tromperie, cruauté et violence ont été enrichies, nourries et transmises. Le despotisme et la dictature sont la nature de la culture du parti. Cette culture sert le parti dans ses luttes politiques et de classe. On peut comprendre comment cela forme l'environnement humaniste, de terreur et de despotisme du parti à partir de quatre aspects. 1. L'aspect de la domination et du contrôle. À une culture d'isolement. La culture du parti communiste est un monopole isolé sans liberté de pensée, de parole, d'association ou de croyance. Le mécanisme de la domination du parti est semblable à un système hydraulique, comptant sur la forte pression et l'isolement pour entretenir son état de contrôle. Même une fuite minuscule pourrait causer l'effondrement du système. Par exemple, le parti a refusé le dialogue avec les étudiants lors du mouvement étudiant du 4 juin, craignant que si cette fuite persistait, les ouvriers, les paysans, les intellectuels et l'armée réclameraient eux aussi le dialogue. Par voie de conséquence, la Chine se serait finalement dirigée vers la démocratie, et la dictature à parti unique aurait été défiée. Ils ont donc préféré commettre des crimes plutôt que de satisfaire à la demande des étudiants. Aujourd'hui, le PCC emploie des dizaines de milliers de « cyberpoliciers » pour contrôler l'Internet et bloquer directement tous les sites web étrangers que le PCC n'aime pas. B. Une culture de terreur. Au cours de ces 55 dernières années, le PCC a utilisé la terreur pour réprimer la pensée du peuple chinois. Ils ont manié leurs fouets et brandi leurs couteaux de boucher. Les gens ne savent jamais quand des désastres imprévus vont leur tomber dessus pour forcer le peuple à se soumettre au contrôle. Le peuple, vivant dans la crainte, est devenu obéissant. Les partisans de la démocratie, les penseurs indépendants, les sceptiques au sein du système, du PCC, et les membres de divers groupes spirituels sont devenus des cibles à tuer de façon à mettre le public en garde. Le parti veut étouffer toute opposition naissante. C'est une culture de contrôle en réseau. Le contrôle de la société par le PCC englobe tout. Il existe un registre de domiciliation des foyers, un système de comité des résidents de quartier et divers niveaux de structure de comité du parti. Les sections du parti sont établies au niveau des entreprises. Chaque village a sa section du parti. Le parti et les membres de la Ligue de la Jeunesse communiste ont des activités régulières. Le PCC préconise aussi une série de slogans, dont voici quelques exemples: montez la garde à votre propre porte et surveillez votre peuple, empêchez votre peuple de faire appel, mettez énergiquement en œuvre un système pour imposer des tâches, garantir l'accomplissement de ces tâches et établissez les responsabilités. Surveillez et contrôlez avec sévérité. Soyez sérieux envers la discipline et les règlements et garantissez des mesures de contrôle, de prévention et de maintenance 24/24. Le bureau 610 formera un comité de surveillance pour inspecter et contrôler à intervalles irréguliers les activités des unités de travail de chaque région. D. Une culture d'incrimination. Le PCC a complètement négligé les principes légaux des sociétés modernes et a vigoureusement promu une politique d'implication. Il a utilisé son pouvoir absolu pour punir les proches de ceux que l'on a étiquetés comme « propriétaires terriens, riches, réactionnaires, mauvais éléments » et « droitiers ». Il a proposé la théorie de « l'origine des classes ». Aujourd'hui, le PCC va « imposer la responsabilité des dirigeants au plus bas de l'échelle et les réprimander publiquement s'ils échouent dans leur rôle de prendre des mesures adéquates pour empêcher les pratiquants de Falun Gong d'aller à Pékin » s'émeut à le trouble. Pour des cas sérieux, des sanctions seront appliquées. Si une personne pratique le Falun Gong, chaque membre de sa famille sera licencié. Si un employé pratique le Falun Gong, la prime de chacun des employés de toute la société sera retenue. Le PCC a aussi publié une politique discriminatoire envers les enfants de « ceux qui peuvent être éduqués et transformés » et ceux qui sont issus des « cinq classes noires », les propriétaires terriens, les fermiers riches, les réactionnaires, les mauvais éléments et les droitiers. Le parti met en avant la conformité au parti et le fait de « placer la droiture au-dessus de la loyauté envers la famille ». Les systèmes, tels que le système d'archives du personnel et celui des archives structurelles ainsi que le système de relocalisation provisoire, ont été établis pour assurer la mise en œuvre de sa politique. Le peuple est encouragé à accuser et dénoncer les autres et est récompensé pour ses contributions au parti. 2. Les aspects de la propagande. À une culture de voix unique. Pendant la révolution culturelle, la Chine foisonnait de slogans tels que « les instructions suprêmes », « une phrase » de Mao, pèse autant que 10 000 phrases, chacune est la vérité. Tous les médias ont été obligés de chanter les éloges du parti et de parler collectivement pour le soutenir. Lorsque c'était nécessaire, les dirigeants de chaque niveau du parti, le gouvernement, l'armée, les ouvriers, la Ligue de la jeunesse et les organisations de femmes devaient exprimer leur soutien. Chacun a dû passer par cette épreuve. B. Une culture pour promouvoir la violence. Mao Tse Tung a dit, avec 800 millions de gens, comment peut-on fonctionner sans lutte? Dans la persécution du Falun Gong, Jiang Zemin a dit, pas de punition pour ceux qui frappent à mort les pratiquants de Falun Gong. Le PCC a préconisé, la guerre totale, et, la bombe atomique n'est qu'un tigre de papier, même si la moitié de la population mourait, la moitié restante suffirait pour reconstruire notre patrie. C'est une culture pour inciter à la haine. Ne pas oublier la souffrance des classes, pauvres, et se souvenir fermement de l'hostilité dans les larmes et le sang, est devenue une politique nationale de base. La cruauté envers les ennemis de classe était considérée comme une vertu. Le PCC a enseigné, mordez votre haine, mâchez-la et avalez-la. Plantez cette haine dans votre cœur pour qu'elle y germe point. D. Une culture de duperie et de mensonges. Voici quelques exemples des mensonges du PCC, le rendement par mu est supérieur à 10 000 jin, pendant le grand bond en avant, 1958. Pas une seule personne n'a été tuée sur la place Tiananmen, pendant le massacre du 4 juin 1989. Nous contrôlons le virus du SRA, en 2003. C'est actuellement la meilleure période pour les droits de l'homme en Chine, et, la théorie des trois représentations. Une culture de lavage de cerveau. Voici quelques slogans que le PCC a créés pour laver le cerveau du peuple, il n'y aurait pas de nouvelle Chine sans le Parti communiste. La force au cœur pour mener notre cause est le PCC et la base théorique qui guide notre pensée est le marxisme-léninisme. Alignez-vous sur la position du comité central du parti. Exécutez les ordres du parti si vous les comprenez. Si vous ne les comprenez pas, exécutez-les aussi et votre compréhension s'approfondira en effectuant les ordres. F. Une culture d'adulation. Le ciel et la terre sont grands, mais plus grande encore est la grâce du parti, nous devons tous nos succès au parti, je considère le parti comme ma mère, j'utilise ma propre vie pour sauvegarder le comité central du parti, un parti grand, glorieux et correct, un parti invincible, etc. J'ai une culture de prétention. Le parti a établi des modèles, fondé des exemples les uns après les autres et lancé, le progrès socialiste, idéologique et éthique, et des campagnes, d'éducation idéologique. Finalement, le peuple a continué à faire exactement comme avant chacune de ces campagnes. Toutes les conférences publiques, les sessions d'études et les partages d'expériences sont devenues, une vitrine sérieuse, et la norme morale de la société a continué à faire de grands bonds en arrière. 3. L'aspect des relations interpersonnelles. À une culture de la jalousie. Le parti a promu l'égalitarisme absolu, afin que, quiconque dépasse les autres sera la cible des attaques. Les gens sont jaloux de ceux qui ont une plus grande habileté et de ceux qui sont plus riches, c'est ce qui a été appelé le « syndrome des yeux rouges ». B. Une culture consistant à s'écraser l'un l'autre. Le PCC a encouragé à « lutter face à face et dénoncer dos à dos ». Dénoncer ses associés, écrire des lettres pour les diffamer, fabriquer des faits et exagérer leurs erreurs. Ces comportements déviés ont été utilisés pour mesurer la proximité à l'esprit du parti et le désir d'avancer. 4. Influence subtile sur le psychisme et sur le comportement des gens. À une culture qui transforme les êtres humains en machines. Le parti veut que les gens soient les boulons qui ne rouillent jamais dans la machine de la révolution, qu'ils soient l'outil dressé pour le parti, ou qu'ils attaquent dans n'importe quelle direction vers laquelle le parti nous dirige. Les soldats du président Mao sont ceux qui écoutent le plus le parti, ils vont là où leurs services sont demandés et ils s'installent là où il y a des difficultés. B. Une culture qui confond le bien et le mal. Les rangs inférieurs obéissent aux ordres des rangs supérieurs et tout le parti obéit au comité central du parti. Luttez impitoyablement pour éradiquer toutes les pensées égoïstes qui vous viennent à l'esprit. Faites éclater une révolution dans la profondeur de votre âme. Alignez-vous au maximum sur la position du comité central du parti. La Chine serait dans le chaos sans le parti communiste. Unifiez l'esprit, unifiez les pas, unifiez les ordres et unifiez les commandements. C'est une culture de lavage de cerveau imposée et d'obéissance inconditionnelle. Les rangs inférieurs obéissent aux ordres des rangs supérieurs et tout le parti obéit au comité central du parti. Luttez impitoyablement pour éradiquer toutes les pensées égoïstes qui vous viennent à l'esprit. Faites éclater une révolution dans la profondeur de votre âme. Alignez-vous au maximum sur la position du comité central du parti. La Chine serait dans le chaos sans le parti communiste. Unifiez l'esprit, unifiez les pas, unifiez les ordres et unifiez les commandements. D. Une culture assurant une position de larbin. La Chine serait dans le chaos sans le parti communiste. La Chine est si vaste. Qui d'autre peut la gouverner à part le PCC ? Si la Chine s'effondre, ce sera un désastre mondial, donc nous devons aider le PCC à soutenir son pouvoir. Par peur et pour se protéger, les groupes qui sont constamment opprimés par le PCC sont souvent plus gauchistes et plus radicaux que le PCC lui-même. Il y a bien d'autres exemples semblables. Chaque lecteur pourrait probablement trouver diverses sortes d'éléments de la culture du parti dans ses expériences personnelles. Les gens qui ont vécu la révolution culturelle peuvent très nettement se souvenir des opéras modernes de l'époque, des chants avec les mots de Mao pour parole, et de la danse de la fidélité. De nombreuses personnes se rappellent encore des dialogues dans des opéras de Pékin modèles, tels que La fille aux cheveux blancs, dans Guerre dans le tunnel et dans La guerre des mines. À travers ces formes artistiques, le PCC a assujetti les gens à un lavage de cerveau, remplissant leur esprit avec des messages tels que « Le parti est brillant et grand, le parti a péniblement et ardemment lutté contre l'ennemi, comme les soldats du parti, sont entièrement dévoués au parti, comme ils sont prêts à se sacrifier pour le parti et combien les ennemis sont stupides et pervers ». Jour après jour, la machine de propagande du PCC a injecté de force dans chaque individu les croyances nécessaires au maintien du parti communiste. Aujourd'hui, si on allait voir la danse musicale Poème épique L'Esté Rouge, on se rendrait compte que tout le thème et le style du spectacle tournent autour de « tuer, tuer et tuer ». Parallèlement à cela, le PCC a créé son propre vocabulaire et ses propres discours, avec le langage injurieux utilisé dans les campagnes de critique de masse, les mots flatteurs pour chanter les louanges du parti, et jusqu'aux formalités officielles banales comme « l'essai de la huitième partie ». Inconsciemment, les gens ont commencé à parler sous l'effet de pensées favorisant les concepts de lutte des classes et de louanges au parti. Le raisonnement calme et rationnel a été remplacé par un langage dominateur. Le PCC plagie aussi le vocabulaire religieux et dénature son contenu. La duplicité n'est qu'un pas au-delà de la vérité. La culture de parti du PCC exploite aussi la moralité traditionnelle en la déformant. Par exemple, la culture traditionnelle valorise la foi, le parti communiste le fait aussi en encourageant la fidélité et l'honnêteté envers le parti. La culture traditionnelle met l'accent sur la piété filiale, le PCC met les gens en prison s'ils ne subviennent pas aux besoins de leurs parents, mais la vraie raison est que ceci deviendrait un fardeau pour le gouvernement. Quand cela convient au parti, le PCC demande aux enfants de se séparer de leurs parents. La culture traditionnelle souligne aussi la loyauté. Néanmoins, le peuple est d'une importance capitale, la nation vient après, le souverain est moins important. La loyauté, voulue par le PCC, cependant, est un dévouement aveugle, si aveugle que les gens doivent croire au PCC inconditionnellement et doivent lui obéir sans poser de questions. Les mots couramment utilisés par le PCC sont tout à fait fallacieux. Par exemple, il a appelé la guerre civile entre le Kuomintang et les communistes la « guerre de libération », comme si les gens avaient été « libérés » de l'oppression. Le PCC a appelé la période d'après 1949, après la fondation de la nation, alors que la Chine a existé bien avant cela et que le PCC a simplement mis sur pied un nouveau régime politique. La grande famine qui a duré 3 ans a été appelée « les 3 années de désastre naturel », alors que cette catastrophe était entièrement due aux hommes. En entendant ces mots utilisés dans la vie de tous les jours et imperceptiblement influencés par eux, les gens les acceptent inconsciemment ainsi que les concepts idéologiques qu'ils contiennent, comme le souhaite le PCC. Dans la culture traditionnelle, la musique est considérée comme un moyen de restreindre les désirs humains. Dans le volume 24 des Mémoires historiques, Shiji, Simakian, 145 à 85 avenue JC, a dit que la nature de l'homme est pacifique et que nos émotions sont affectées par des influences externes. Si les sentiments de haine et d'amour surgissent sans être restreints, on sera livré à la séduction continuelle des tentations extérieures et on commettra de mauvaises actions. Donc, disait Simakian, les empereurs du passé utilisaient les rituels et la musique pour restreindre les gens. Les chants devaient être joyeux mais pas obscènes, tristes mais pas trop affligeants. Ils devaient exprimer des sentiments et des désirs, mais avoir un contrôle sur ces sentiments. Confucius a dit dans les Analectes, les 300 vers des Odes, un des 6 classiques compilés et édités par Confucius, peuvent être résumés en une seule phrase, ne pense pas au mal. Une chose aussi belle que la musique a, cependant, été utilisée par le PCC comme outil de lavage de cerveau. Des chants comme « Le socialisme est magnifique, il n'y aurait pas de nouvelle Chine sans le parti communiste » et beaucoup d'autres, sont chantés du jardin d'enfants à l'université. En chantant ces chansons, les gens ont graduellement accepté les significations des paroles. De plus, le PCC a volé les airs des chansons folkloriques les plus populaires et les a remplacées par des paroles louant le parti. Cela a servi à détruire la culture traditionnelle et à promouvoir le parti. Un des documents classiques du PCC, le « Discours » de Mao, au Forum sur la littérature et les arts à Yan'an, plaçait la culture et l'armée comme « les deux fronts de bataille ». Il déclarait que la force militaire était insuffisante, une « armée des arts littéraires » était aussi nécessaire. Ajoutant que « les arts littéraires devraient servir la politique » et que « les arts littéraires de la classe prolétarienne sont les outils et les vis de la machine révolutionnaire ». L'athéisme et la lutte des classes sont devenus le noyau dur de la culture du parti, ce qui va totalement à l'encontre de la culture traditionnelle. La culture du parti a vraiment rendu un service remarquable en aidant le PCC à obtenir le pouvoir et le contrôle sur la société. L'armée, les prisons, les forces de police, la culture du parti appartiennent au même outil politique brutal, bien que la brutalité culturelle soit différente des autres formes de violence du régime. Cette brutalité culturelle, en détruisant 5000 ans de culture traditionnelle, a diminué la volonté du peuple et nuit à la cohésion de la nationalité chinoise. Aujourd'hui, beaucoup de Chinois n'ont plus qu'une connaissance très limitée de la culture traditionnelle. Certains mettent sur le même pied les 50 années de culture du parti et les 5000 ans de culture traditionnelle. C'est vraiment une chose triste pour le peuple chinois. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'en s'opposant à la prétendue culture traditionnelle, ils s'opposent en fait à la culture du parti, du PCC et pas à la vraie culture traditionnelle de la Chine. Beaucoup de gens espèrent remplacer le système chinois actuel par le système démocratique occidental. En réalité, la démocratie occidentale a aussi été établie sur une base culturelle, à savoir celle de la chrétienté, qui maintient que tous sont égaux aux yeux de Dieu, et qui respectent ainsi la nature humaine et les choix humains. Comment la culture du parti, despotique et inhumaine du PCC pourrait-elle être utilisée comme base d'un système démocratique de type occidental? Conclusion. La Chine a commencé à dévier de sa culture traditionnelle à l'époque de la dynastie Song, 960 à 1279, et cette culture n'a cessé de se dépraver depuis. Après le mouvement du 4 mai 1919, certains intellectuels en quête d'un succès rapide et d'un bénéfice immédiat ont tenté de trouver une issue pour la Chine en tournant le dos à la culture traditionnelle pour adopter la civilisation occidentale. Pourtant, les conflits et les changements dans le domaine culturel sont restés un sujet de contestation académique sans que l'État ne s'en préoccupe. Mais quand le PCC est apparu, il a élevé les conflits culturels au niveau d'un combat à mort pour le parti. Donc le PCC a commencé à attaquer directement la culture traditionnelle, en utilisant des moyens destructeurs directs ainsi que d'autres moyens plus sournois consistant à garder les impuretés et rejeter la quintessence. La destruction de la culture nationale a été aussi le processus d'établir la culture du parti. Le PCC a corrompu la conscience humaine et le jugement moral, conduisant ainsi les gens à se retourner contre la culture traditionnelle. Si la culture nationale est complètement détruite, l'essence de la nation disparaîtra avec elle, ne laissant de la nation qu'un nom vide. Cet avertissement n'a rien d'exagéré. En même temps, les dommages physiques subis par la société chinoise du fait de la destruction de la culture traditionnelle sont dramatiques. La culture traditionnelle valorisait l'unité du ciel et des humains et une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Le PCC a déclaré qu'une joie infinie viendrait de la lutte entre le ciel et la terre. Cette culture du PCC a directement entraîné une sérieuse dégradation de l'environnement naturel, et cette dégradation est devenue un problème majeur pour la Chine aujourd'hui. Prenez l'eau par exemple. Ayant abandonné la valeur traditionnelle, un homme noble apprécie la richesse mais il s'enrichit de manière décente, le peuple chinois a sans motif ravagé et pollué l'environnement naturel. Actuellement, plus de 75% des 50 000 km des rivières en Chine sont impropres à la vie des poissons, plus d'un tiers des eaux souterraines ont été polluées pendant les 10 dernières années, et la situation continue d'empirer. Un spectacle d'une étrange sorte s'est produit dans la rivière Hue, un enfant jouant dans l'eau saturée de pétrole a créé une étincelle qui, en touchant la surface de la rivière, a allumé une flamme de 5 mètres de haut. Le feu s'élançant dans l'air, plus de 10 saules dans les alentours ont été calcinés. On peut facilement voir qu'il est impossible pour ceux qui boivent l'eau de ne pas développer de cancer ou d'autres maladies. D'autres problèmes environnementaux, tels que la désertification et la salinisation au nord-ouest de la Chine et la pollution industrielle dans les régions développées, sont tous liés à la perte de respect de la société envers la nature. La culture traditionnelle respecte la vie. Le PCC proclame que la révolte est justifiable et que lutter contre les hommes remplis de joie. Au nom de la révolution, le parti a pu tuer et faire mourir de famine des dizaines de millions de personnes. Cela a amené les gens à déprécier la vie, ce qui à son tour a encouragé la prolifération de produits altérés et empoisonnés sur le marché. Par exemple, dans la ville de Fuyang, province d'Anhui, beaucoup de bébés en bonne santé ont eu les membres atrophiés, leur corps affaibli et leur tête ont grossi alors qu'ils étaient nourris au biberon. 8 bébés sont morts en raison de cette étrange maladie. Après enquête, on a découvert que cette maladie avait été causée par du lait en poudre empoisonné préparé par un fabricant cupide et sans scrupules. Certaines personnes nourrissent des crabes, des serpents et des tortues avec des hormones et des antibiotiques, ajoutent de l'alcool industriel au vin, traitent le riz avec des huiles industrielles, et blanchissent le pain avec des produits utilisés pour le blanchissage. Durant 8 ans, un fabricant de la province de Henan a utilisé de l'huile recyclée, de l'huile non raffinée ainsi que d'autres produits cancérigènes pour produire chaque mois des milliers de tonnes d'huile de cuisson empoisonnée. Produire de la nourriture empoisonnée n'est pas un phénomène local ou limité, mais cela est monnaie courante partout en Chine. La destruction de la culture et la décadence morale ont contribué à cette poursuite obsessionnelle de gains matériels faciles. Contrairement au monopole absolu et à l'exclusivité de la culture du parti, la culture traditionnelle a une énorme capacité d'intégration. Durant la prospère dynastie Tang, les enseignements bouddhistes, le christianisme et d'autres religions occidentales ont coexisté harmonieusement avec la pensée taoïste et confucéenne. La culture traditionnelle chinoise aurait gardé une attitude ouverte envers la civilisation et la culture occidentale. Les 4 tigres d'Asie, Singapour, Taïwan, Corée du Sud et Hong Kong ont créé une nouvelle identité culturelle confucéenne, en intégrant la morale confucéenne à la rationalité économique moderne. L'économie galopante de ces pays a prouvé que la culture traditionnelle n'est pas une entrave à la science et au développement. En même temps, la culture traditionnelle authentique mesure la qualité de la vie humaine sur la base du bonheur intérieur plutôt que d'après le simple confort matériel. Je préférerais que personne ne me condamne derrière mon dos, plutôt que quelqu'un fasse mon éloge en face, je préférerais avoir l'esprit en paix, plutôt que le confort physique. Tao Yuanming, 365 à 427, vivait dans la pauvreté, mais il était toujours joyeux et avait un passe-temps, cueillir des astées sous la porte de l'Est, observer la montagne du Sud qui se dresse à l'horizon. La culture n'offre pas de réponse aux questions de productivité industrielle ou de choix d'un système social. Elle joue plutôt un rôle important en offrant des conseils moraux. La véritable restauration de la culture traditionnelle marquera le rétablissement de l'humilité envers le ciel, la terre et la nature, le respect de la vie et de Dieu. Elle permettra à l'humanité de vivre harmonieusement avec le ciel et la terre, et de jouir d'un âge honorable donné par le ciel.